Une question.
Je voulais savoir si vous utilisiez donc les deux préparations sur la même culture, mettons la bouse avec la corne et le quartz avec la corne sur la même culture. Et en fait, bon, vous dites ça a un effet sur la plante, enfin sur l'aspect physique, je dirais, les feuilles orientées, mais sur les rendements, sur la qualité, est-ce que vous arrivez à mesurer un effet, quoi? Voilà.
Ok. Donc, la question est en deux parties. La première partie de la question, c'est est-ce qu'on utilise la bouse de corne et la silice de corne sur les mêmes plantes, en fait? Oui, tout à fait. Que ce soit pour les prairies, pour la vigne, pour le maraîchage, pour l'arboriculture, les céréales, qu'est-ce que j'ai oublié? Enfin, pour tous les types de cultures, on utilise systématiquement ces deux préparations sur les mêmes plantes. On va d'abord pulvériser au printemps la bouse de corne, puis ensuite, quelques semaines après, 3, 2, 3, 4 semaines après, la silice de corne. C'est vraiment deux préparations qui vont agir en polarité l'une avec l'autre. L'une en poussant la plante, en poussant les racines de la plante vers le bas, l'autre en tirant la plante vers le haut. Vraiment, vraiment comme ça, hein, avec le geste. Sur la bande son, le geste, ça se voit pas, quoi. Donc vraiment d'une part vers le bas et d'autre. Voilà, tout à fait. Il y a ces deux polarités pour la plante, quoi. La deuxième question, est-ce que ça se mesure? Est-ce que ça se ressent? Est-ce qu'on voit, comment on voit que ça marche, quoi? Là, on peut scinder les choses en deux. D'une part, par rapport à la bouse de corne, effectivement, il y a des essais qui sont faits. Il y a un essai qui dure depuis longtemps, mais qui est suisse. Un essai qui s'appelle DOC, je crois que c'est DOC, ça veut dire dynamique, organique et conventionnel sans doute, je ne suis pas très sûr. Cet essai DOC en Suisse qui compare donc les trois types d'agriculture organique, bio, conventionnelle et biodynamique, qui montre qu'effectivement il y a d'une part plus de multiplication des radicelles, plus d'exploration de la terre, en utilisant la bouse de corne, et un accroissement de la qualité des produits en utilisant les deux préparations. Ouais. La silice de corne est très vue comme étant quelque chose qui améliore la qualité des choses. La qualité, c'est un mot qu'on entend souvent, mais qui est très, très difficile à cerner. C'est très difficile d'avoir de l'objectivité par rapport à ce mot. La qualité pour l'un et pas forcément la qualité pour l'autre, quoi. C'est pas facile. On a des mesures qui peuvent donner des idées de la qualité, la quantité de vitamines dans une pomme, la quantité d'anthocyanes dans la peau des raisins, enfin des choses comme ça. Après, on a une idée de la qualité par le test humain, entre guillemets, hein. Je veux dire, pour les vins, c'est la dégustation. Mais la dégustation, ouais, c'est toujours empirique, c'est toujours très personnel aussi. Donc on peut avoir des notions, aborder la qualité par certains biais, mais d'avoir des preuves de qualité, c'est pas facile. En biodynamie, on utilise des cristallisations sensibles. C'est quelque chose d'un peu particulier. On va prendre un petit peu de matière, de ce qu'on veut avoir à analyser. Et on va la mélanger à un sulfate de cuivre et qu'on va laisser cristalliser. Et donc en fait, ça va faire une image. Certains d'entre vous ont peut-être vu ces images de cristallisation sensible. Et ça va donner des ronds comme ça, qu'on prend en photo, avec des cristaux qui se forment. Et ces cristaux peuvent avoir des formes très très différenciées, plus ou moins rayonnants, plus ou moins organisées dans leur structure. Ça nous donne aussi une idée de la qualité que peut avoir la chose. Mais l'interprétation de ces images reste très, très personnelle, quoi. Après, on peut voir effectivement que l'archétype de ça que j'ai en mémoire, c'est des carottes, quoi. Avec un essai où vraiment il y a eu beaucoup de silice sur une carotte, sur une culture de carottes, ça faisait une image très, très rayonnante, très forte, alors que la carotte conventionnelle donnait une image avec des rayons qui partaient de différents centres, etc., quoi. C'était beaucoup plus désorganisé. Ouais. Voilà pour la qualité et l'usage de ces deux préparations. Ouais. D'autres questions?
et le rendement.
Le rendement. Alors, par rapport à l'utilisation des préparations en elles-mêmes, ce n'est pas quelque chose qui va faire baisser les rendements. Par contre, mon expérience personnelle de changement de culture, il y a eu notablement une baisse de rendement. Mais est-ce que c'est les préparations ou est-ce que c'est le fait de ne plus avoir une vigne avec la perfusion d'azote ? Pour moi, c'est plus ça en fait. À partir du moment où on enlève à une plante, bon, la vigne c'est une plante pérenne, c'est une plante qui va rester, qui passe très gourmande en azote, mais qui est très sensible à cet azote-là. D'enlever les nutriments solubles, chimiques entre guillemets, facilement pompables par la plante, ouais, ça lui change la vie. Hein. Ouais. Il a fallu vraiment qu'elle s'oriente différemment et qu'elle recherche sa bouffe elle-même. Hein. Ouais. C'est comme un malade d'enlever la perfusion. Hein. C'était vraiment ça, ouais. Ouais, ouais. Les préparations biodynamiques ne vont pas rajouter une couche à cette difficulté, mais au contraire, pour moi, permettre de surmonter cette difficulté, ouais, en explorant plus le sol. Cette problématique du rendement, dans la vigne, c'est un petit peu donnant-donnant, puisque la qualité, on en revient toujours là, de ce qu'on fait, va être assez directement liée aussi au rendement qu'on pratique. C'est très sensible sur des cépages rouges comme le pinot noir, qui n'est pas super rouge comme de la syrah non plus. Mais dès qu'un pinot noir, par exemple, fait trop de rendement, ça va être dilué, ça va pas avoir de couleur, les arômes vont partir, ça perd beaucoup de son intérêt. Au contraire, quand les rendements baissent, ça se concentre, ça devient plus intéressant. De même pour les acidités, pour les concentrations en arômes. Et donc les préparations, ouais, vont... Je ne pense pas que ce soit elles qui vont faire baisser les rendements. Ouais. Est-ce que j'ai répondu du coup à cette question ? Mais ça soulève une autre question pour moi qui est très importante aussi. C'est l'évolution de la biodynamie par rapport aux céréales, par exemple. Puisque j'ai pas mal de collègues qui ont des fermes en polyculture. On parlait de cet organisme agricole au départ, avec le compost, les animaux, les cultures et tout ça qui forme un tout. Mais la grosse difficulté devant laquelle on se heurte à présent, c'est de voir comment, pour des fermes qui font uniquement des céréales, dans la Beauce, 400 hectares d'un coup, comment est-ce que la biodynamie peut être pratiquée à ce niveau-là ? C'est-à-dire comment on peut enlever la perfusion de l'azote et des éléments minéraux solubles qu'on apporte à la plante et avoir un rendement suffisant, quoi. Parce que de passer de 100 quintaux à 30... C'est difficile. Ouais. Mais oui. Mais ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Je veux dire, chez nous, en Alsace, on a une zone en plaine qui s'appelle la Hart. Toujours bien germanique dans la consonance. C'est des terres alluviales, très filtrantes, pas mal de sable, pas beaucoup d'argile dans les sols, donc pas beaucoup de rétention des éléments. Et ils font magnifiquement pousser du maïs à force d'arroser, et voilà. Mais si on ne met plus la bouffe avec, ça ne marche pas, quoi. Et donc, ce n'est pas facile de voir quel système on peut trouver. En bas, la conférence de la permaculture en parlait aussi un petit peu, hein, d'avoir des sols qui ne soient pas forcément labourés chaque année et de voir comment on peut adapter au mieux la biodynamie à quelque chose qui est finalement de la grande culture. Est-ce que c'est adapté à ça ou pas, quoi ? Mais il y a quand même cette mise... Ouais.
J'ai une petite question. Oui. Est-ce que, justement, toutes ces préparations, ça a une influence sur... la résistance des plantes aux maladies, aux insectes,
voilà. Oui, là on a des réponses, ouais. On arrive à avoir des équilibres qui sont meilleurs. On parlait de rendement aussi, c'est quelque chose qui est lié à ça aussi. La plante, c'est quelque chose qui, au départ, n'est pas malade. Le concept de maladie, comme on l'a chez les animaux et chez les êtres humains, n'existe presque pas chez la plante. Quand une plante a un souci, c'est en fait un souci venu de l'extérieur. Ça va être soit un parasite, soit souvent un parasite, en fait. Mais il y a parasite et parasite, en fait. En parasite, on pense d'abord à des insectes. C'est souvent des insectes piqueurs, suceurs, qui vont être là et qui vont bouffer la plante. Et il y a des petites solutions en biodynamie aussi, qui sont encore une fois à base de dilution. Par exemple, nous, en vigne, on a des soucis de temps en temps avec des tordeuses de la grappe, qui portent des noms charmants. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça. Ça s'appelle Eudémis, Cochilis et Eulia. C'est très joli comme nom. Mais bon, c'est des petites bestioles qui ressemblent à des papillons de nuit qui pondent des œufs sur les raisins. Les larves naissent, elles bouffent les raisins, ça commence à pourrir parce qu'il y a des trous dans les raisins. Donc, c'est pas la quantité de ce qu'ils mangent qui est gênante, c'est plutôt les blessures qu'elles font à la grappe. En bio, on a des produits pour lutter contre, qui s'appellent des BT, des Bacillus thuringiensis. Donc ça, c'est un produit bio qu'on peut utiliser. Mais en biodynamie également, on peut faire des dilutions à partir des cendres de ces bestioles-là. En fait, on en capture un petit peu avec des pièges. On les brûle, et à l'instar des dilutions D6, D8 qu'on trouve chez Velleda, les petites granules, on fait des dilutions à partir de ces cendres, d'abord dans de l'alcool et puis dans de l'eau en remuant, quoi. On fait une D8 de cendres de cochilis, et on pulvérise ça sur des vignes, ouais. Après, ça c'est un type de maladie, un type de parasite, mais les deux autres qui sont assez fondamentaux en vigne, c'est l'oïdium et le mildiou. Et là, on repasse à cette influence du dopage de l'azote à la plante par rapport aux maladies, quoi. Parce que plus une plante va va pomper facilement dans le sol des éléments solubles, parce que minéraux, parce que facilement solubles dans l'eau, quoi, qui sont en phase aqueuse dans le sol, plus on va retrouver de ces éléments dans sa propre sève, un peu comme si vous bouffez toujours du sucre rapide et que vous avez le sang toujours sucré, quoi. C'est un peu pareil. Ça va être une porte ouverte aux maladies, quoi. N'importe quelle petite bestiole qui va se pointer, eh ben, ça va bien lui plaire, un sang bien sucré. Et là, c'est pareil, d'avoir une sève qui est toujours très chargée en nutriments va attirer, en fait, les problèmes. On va avoir plus de rendement, mais on va aussi avoir des feuillages plus denses, plus de matière dans la sève, et plus de matière nutritive tout le temps dans la sève, et du coup, beaucoup plus de problèmes de mildiou et d'oïdium, ouais. Donc, moins de rendement, mais moins de problèmes de maladie aussi. Pour autant, on ne fait pas rien, puisque la plante, la vigne, c'est une plante qui a tellement été domestiquée, qui a été tellement proche de l'homme, qu'elle est quand même devenue fragile, même en n'étant pas poussée à faire des rendements importants, qu'il faut qu'on la protège, spontanément. Et sur une vigne même qui n'est pas dopée, il va quand même y avoir du mildiou, il va quand même y avoir de l'oïdium si on ne fait rien à certaines années, quoi. Sauf cépages résistants, mais cépages résistants sont souvent moins intéressants pour faire du vin. Donc on est un peu actuellement balancé entre garder des cépages intéressants, qui chez moi sont toute la famille des Pinot, les Muscats, les Riesling, du Gewürz, ou alors prendre des cépages qui résistent. Il y a des hybrides qu'on n'a plus le droit de planter depuis à l'après-guerre. Ou alors des nouveaux cépages hybrides comme le régent, comme le je sais plus quoi, des choses comme ça qui existent, mais qui donnent des vins beaucoup moins intéressants. Va falloir choisir à un moment donné. Et du coup, on continue de protéger la plante contre l'oïdium avec des pulvérisations de soufre, contre le mildiou avec des pulvérisations de bouillie bordelaise qui contient du cuivre, qui est un métal lourd et qu'il ne faut pas en utiliser beaucoup. Donc ça, c'est très important. Mais aussi avec des moyens plus proches de la biodynamie. L'un de ces moyens, c'est d'utiliser de la prêle, c'est d'utiliser d'autres plantes, comme par exemple la prêle, mais aussi l'ortie, l'osier, la consoude, des choses comme ça. Et la prêle, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'actualité de cette semaine qui se termine aujourd'hui, puisque c'est Pâques aujourd'hui, non? Et donc avant Pâques, dans la semaine sainte, on fait une décoction de 100 grammes de prêle par hectare qu'on pulvérise par terre, quoi. La prêle va avoir, qui est aussi très riche en silice, hein, une petite parenthèse. Vous voyez ce que c'est de la prêle? Ouais, voilà, c'est, C'est un mini sapin de Noël, ça contient beaucoup de silice, quoi. C'est une espèce de squelette vert. Et la prêle va avoir pour rôle, dans cette utilisation qu'on en fait, de maintenir tous les cryptogames, tous ces champignons au sol, là où est leur place, parce que chaque être vivant a son rôle. Et le rôle des champignons, c'est de bouffer la matière organique morte et de la minéraliser et de commencer à l'intégrer et faire de l'humus.
Excusez-moi. Oui. C'est moi. Pour la prêle, je l'accueille le jour de la Saint-Jean. Mm-hmm. C'est un médecin naturopathe qui me l'avait indiqué.
Ouais.
Alors, elle m'avait indiqué de la faire sécher et de la disperser en automne dans le jardin.
En automne.
En automne. Okay. Ou alors moi, j'en fais des décoctions et je pulvérise mes plantes, oui, c'est exact. Mais je l'accueille pour la Saint-Jean.
Oui.
Parce qu'en ce moment, il n'y en a pas tellement. Hein.
Ah non, là, il n'y en a pas.
Ouais. Donc, ce serait difficile.
La prêle, en fait, elle pousse en deux fois. Ouais, ça fait d'abord une espèce de champignon. Et puis après, il y a une deuxième pousse avec la partie intéressante, l'espèce de squelette que ça fait. Quoi. Ouais. Et en fait, ouais, il faut l'accueillir...
Pour la Saint-Jean.
Pour la Saint-Jean, donc au mois de juin. Et la faire sécher, ouais.
Je la fais sécher, ouais.
Voilà, ouais, tout à fait, ouais. Mais nous, ouais, on la pulvérise pas, on l'utilise pas en automne, on l'utilise maintenant, là, au printemps, ouais. Ouais.
Ah, d'accord. Oui, pour les jardins, moi, par exemple, pour les tomates, je la pulvérise sur les tomates.
Ouais, ouais, c'est une bonne chose aussi,
ouais. On peut la mettre, soi-disant, dans les jardins, quand elle est sèche, en automne. Voilà,
ouais. Ouais.
Tant que j'ai le micro...
Oui, allez-y.
Je reviens à la préparation la première préparation, la bouse de corde.
La bouse de corde.
Vous pulvérisez sur le sol. Nous, pour les jardins.
Sur les plantes aussi, ouais.
Ouais. Mais est-ce qu'il faut avoir planté dans les jardins ? Est-ce qu'il faut avoir planté pour pulvériser ou pulvériser avant de planter ?
Pour moi, c'est mieux de pulvériser après avoir planté.
Après avoir planté ?
Pour moi, oui.
D'accord. Donc la plante, elle en prend aussi.
La plante, elle en prend, ouais.
D'accord.
Ouais.
Merci.
Ouais, ouais. Je vous en prie. D'autres questions ? Donc voilà pour les maladies et les soucis auxquels on peut être confronté avec les plantes, notamment la vigne. Un autre aspect de la biodynamie, ça va être les différents rythmes. Madame a parlé de la Saint-Jean. La Saint-Jean, oui, il y a beaucoup de saints, il y en a 365 au moins, enfin de quoi remplir toute l'année, hein. Sans doute plus. Mais... Il y a certains saints comme ça, on sait que c'est le début de l'été, la Saint-Jean, quoi. Parce qu'il y a les feux de la Saint-Jean, etc. La Saint-Michel, on sait que ça va être le début de l'automne. C'est fin septembre. Il y a des étapes comme ça. Noël, on sait que ça va être l'hiver. Même si c'est déjà un peu commencé l'hiver. Il y a des rythmes dont on s'éloigne un petit peu en ayant le nez... dans les ordinateurs peut-être, ou même des fois dans les tracteurs, ça nous met le nez un peu trop par terre. Et disons dans la technique. Mais c'est vrai qu'on est entouré de rythmes, et il y en a dont on a facilement conscience. Ça va, il fait jour, il fait nuit. Des fois, à certains âges, on confond un peu le jour et la nuit, à la naissance, vers 15-16 ans des fois aussi, c'est un peu à l'envers. Il y a d'autres rythmes comme les saisons dont on a beaucoup plus conscience. Puisque pendant ce rythme des saisons, on en garde souvent qu'il fait jour plus longtemps, qu'il fait froid, qu'il fait chaud, que les jours rallongent comme actuellement. Mais il faut voir aussi ça. Nous, en biodynamie, on voit ça de façon très, très égocentrique, un peu. En tout cas, géocentrique. Quand on est à l'école, on apprend de quoi est à peu près constitué notre univers. Et ouais, là, je vais vous parler des planètes, un peu des rythmes, des choses comme ça. Parce que ça fait partie aussi de la biodynamie, cette espèce d'observation et des rythmes et de ce que peuvent nous apporter ces rythmes dans la pratique, en fait. Au courant des saisons, on voit que le soleil... va passer plus bas à l'horizon au solstice d'hiver pour arriver justement à la Saint-Jean au plus haut de son cycle, avoir des journées super longues pendant lesquelles les agriculteurs commencent comme le soleil très tôt, terminent très tard. Et en hiver, ils se couchent beaucoup plus tôt, ils se lèvent beaucoup plus tard. Et le soleil, si on regarde les choses de notre point de vue, va passer devant l'ensemble des constellations, des constellations qui sont guère qu'une division du ciel en secteurs pendant tout le long de l'année. Et donc, chacun connaît sans doute son signe du zodiaque. Et en biodynamie, il ne s'agit pas du tout de faire Nostradamus non plus. Il ne s'agit pas du tout de faire de l'astronomie, je confonds les deux, de l'astrologie, mais plutôt de voir effectivement dans quelle constellation se trouve le Soleil, par exemple, mais aussi la Lune, qui elle va mettre beaucoup moins de temps, à peu près un mois, un peu moins d'un mois, pour passer devant toutes ces constellations. Qu'est-ce que ça peut nous apporter de savoir ça ? De savoir, par exemple, qu'actuellement, le Soleil est devant la constellation des Poissons, si je ne m'abuse, et qu'il va bientôt être devant la constellation du Bélier, ensuite. Et de savoir, pareil, qu'est-ce que ça nous apporte donc de savoir que la Lune passe devant toutes ces constellations. De même pour l'ensemble des planètes. Les différentes saisons, on a cet ensoleillement qui diffère. On a les températures qui changent. On a effectivement le soleil qui va monter dans le ciel. Donc des forces qui vont être plus élévatrices avec les choses qui poussent au printemps plus. Une fois que le soleil sera assez haut, c'est une force qui va aller à nouveau plus vers le bas, avec quelque chose qui se concentre dans les fruits au courant de l'été, pour arriver à quelque chose qui meurt de plus en plus avec le soleil qui descend aussi. C'est quelque chose qu'on va retrouver également dans l'utilisation chez nous des cycles lunaires, puisque la Lune, pareil, pendant 13-14 jours, elle va avoir un cycle ascendant, ça va être la Lune montante. On va utiliser cette période beaucoup plus pour récolter, par exemple. Pendant la Lune descendante, je vais un peu vite, hein, je passe sur les différents trucs qu'on peut utiliser. Pendant la lune descendante, on va plus planter à cette époque-là, pas semer, planter, hein. C'est-à-dire prendre une petite plante, la mettre dans, replanter, repiquer. Parce que pendant cette période de lune descendante, les racines vont beaucoup plus facilement se lier à la terre, à leur nouvel environnement de terre. C'est des mouvements plus descendants. Quoi d'autre ? Pendant ce mouvement de la Lune devant ces différentes constellations aussi, on va se rendre compte qu'elle va nous renvoyer des influences qui correspondent chaque fois à ces constellations. On part souvent du principe, en examinant comme ça l'univers et puis la nature, qu'il y a quatre éléments fondamentaux. Qui a vu le film Le Cinquième Élément ? Voilà, donc les quatre éléments qui sont, voilà, tout le monde les connaît, l'eau, le feu, la terre, l'air. Et donc de ces quatre éléments, d'avoir des influences qui nous viennent également de ces différentes constellations. On va voir que par exemple, que je ne dis pas de bêtises, en passant devant la constellation du taureau, il y a une influence plus de chaleur, de feu, qui va... Non, taureau, c'est terre. Exact. Ouais. le sagittaire. Ouais. Je crois. Et donc, des influences qui vont plus s'adresser à des plantes qui font des fruits, par exemple. C'est pour ça qu'on va dire qu'il y a des jours fruits, mais ça va être lié à une influence plus de chaleur et de feu. Les jours où il y a une influence plus terre, ça va être plus pour des plantes qui sont cultivées pour leurs racines, d'autres pour leurs feuilles, d'autres pour leurs fleurs. Et ça nous redonne ces quatre différentes influences. Et donc quand on veut agir, en fait, soit sarcler dans le côté jardinage, soit semer, ce qu'a fait Maria Thun. Certains connaissent le calendrier des semis qu'on utilise. C'est quelqu'un qui a semé comme ça toute sa vie des radis et plein d'autres plantes, il fait plein de choses, mais qui a d'abord découvert sur des radis que le résultat n'était pas le même selon le jour où elle les semait. Et en fait, de tirer au fur et à mesure des conclusions qu'il y avait effectivement la Lune qui changeait de constellation après 3-4 jours, et que le résultat basculait à ce moment-là. Et qu'il y avait comme ça des périodes plus favorables pour semer les plantes qui vont faire des fruits, je sais pas, des fraises ou des tomates, des plantes qui font des feuilles comme de la laitue, des racines comme les radis, ou les feuilles comme, je sais pas, du chou. Ça dépend du chou. Voilà. D'autres questions ?
Vous nous avez dit que pour le milieu, vous mettiez de la bouillie bordelaise.
Oui.
Ça devient dangereux à la longue pour la terre, non ? Le cuivre ?
Oui. Oui, c'est un problème, la bouillie bordelaise.
Vous l'utilisez comment alors ?
En
petite quantité
Voilà. Tout le but du jeu, c'est d'en utiliser le moins possible. C'est quelque chose qui marche super bien, le cuivre. Sauf que c'est un métal lourd et que quand il y en a trop dans les sols, ça l'empoisonne et ça bloque les processus biologiques dans le sol. Le sol est capable de digérer une certaine partie de cuivre, mais trop, ça l'empoisonne. Il y a des alternatives.
Donc, il vaut mieux la prêle ou...
Oui, il vaut mieux la prêle, ouais.
Et là, qu'on soude...
Il y a des alternatives juste pour des alternatives à ça. Comme la consoude, des choses comme ça qui vont favoriser la défense de la plante, la stimulation de la plante face à la maladie.
La consoude, on peut la pulvériser aussi ou on la met dans le compost ?
La consoude, pour moi, c'est quelque chose qui est à pulvériser, ouais.
À pulvériser,
ouais. Même genre que la prêle et l'ortie, ouais.
En faisant du purin ou en faisant de la tisane ?
Pour moi, plus en faisant de la tisane.
De la tisane, ouais, d'accord.
Pour l'ortie, c'est pareil. Hein. C'est quelque chose qui s'utilise sous plein de formes différentes. On peut vraiment faire un purin d'ortie en laissant macérer longtemps et si on n'a pas trop les narines sensibles.
Oui, surtout les voisins.
Ouais,
mais en tisane, si c'est vrai que la prêle, ça marche bien aussi, oui.
Ouais, mais la prêle en décoction, vraiment, il faut la laisser cuire au moins pendant 2 heures. Hein. Enfin, je la laisse cuire. Hein, parce que c'est dur, il faut vraiment que ça s'extraye. Alors que l'ortie, c'est vraiment qu'une tisane. D'accord. C'est mettre des feuilles d'ortie dans de l'eau chaude ou de l'eau chaude sur les feuilles, c'est plus facile.
Oui.
En quantité, quoi. Mm-hmm. Et de laisser infuser quelques heures, ça suffit, quoi.
D'accord.
Oui. Ouais. Pas cuire, quoi. Pas laisser cuire.
Ouais.
C'est deux choses différentes, ouais. Ouais. Je peux répéter la question sinon hein, pour l'enregistrement. Oui, dites-moi. Ah, c'est une bonne question. Ah, c'est une bonne question. J'ai un collègue arboriculteur dans la Meuse qui a essayé. Et, ouais. Est-ce qu'on peut dynamiser du cuivre ? J'ai pas la réponse, en fait. J'ai pas la réponse. Mais c'est tentant. Et en même temps, si on dynamisait du cuivre, j'essaie de répondre prudemment hein, parce que j'ai pas l'expérimentation, j'ai pas de réponse et j'ai pas expérimenté la chose. Mais je pense que si on dynamisait du cuivre, il faudrait vraiment dynamiser quelques grammes de cuivre, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être une voie de recherche, ouais. C'est ça ce qu'il y a de bien, quoi. C'est qu'on a un champ d'investigation devant nous et de recherche absolument vaste.
Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de certains préparats qui étaient des dilutions en ce qui concerne des attaques par certains insectes.
Ouais.
Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de faire des études sur des préparats qui seraient des dilutions de certaines maladies cryptogamiques, etc.
Ouais, ce serait une voie de recherche également, ouais. Ouais. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui ont déjà essayé de faire ça, prendre des bois infectés ou des feuilles infectées et d'en faire... Quelqu'un m'en a parlé pour les maladies du bois, par contre, de ça. Pas pour les maladies annuelles, comme le mildiou, l'odium, mais pour des maladies du bois, comme le cournoué, comme l'esca, des maladies du pied. Des maladies vraiment de la souche, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est encore des trucs vachement à expérimenter, ouais. Ouais. Au lieu d'aller voir... à décortiquer le génome de la vigne et de pousser un gène et d'en mettre un autre à la place. Ouais. C'est d'actualité chez nous, hein. Il y a l'INRA qui fait un essai avec. Ouais.
Oui, donc j'ai une petite question, mais c'est un peu ce que vous avez commencé à y répondre. C'est là, les préparations, bon, tout ça, ça date de Rudolf Steiner, donc, ouais. Qui a mis au point tout ça. Ça fait déjà un moment, quoi, 1920 et quelques.
24, ça, les conférences étaient en 1924.
Et je voulais savoir, là, actuellement, en France, est-ce que la biodynamie, est-ce qu'elle a elle est organisée? Est-ce qu'il y a de la recherche, des moyens mis enfin, je ne sais pas. Voilà.
Le problème, c'est les moyens. Alors, la biodynamie, c'est quelque chose d'assez organisé. Oui, pour vous faire un petit schéma des organisations qui existent. Il y a des associations. Il y a le mouvement de culture biodynamique qui édite des livres, qui fait des formations, qui fait des conférences. Et qui a des associations dans différentes régions. Je ne sais pas s'il y en a une par ici, qui fédère un peu ces associations. Il y a un syndicat des agriculteurs biodynamiques, qui donc est un syndicat de professionnels, et voilà. Il y a Déméter, qui gère la marque. Déméter, c'est la marque des produits qui sont faits en biodynamie. Donc il y a moi, il y a un autre collègue qui fait du vin, où j'ai vu un panneau Déméter, il y en a peut-être d'autres encore sur la foire, je ne sais pas. Et ça, c'est une façon un peu de revendiquer et de marquer ce qu'on fait, puisque j'estime qu'en fait, c'est... Souvent les gens ne savent pas ce que c'est, mais j'estime que c'est important de leur apprendre ce que c'est. Comme ça, après, ils sauront, d'une part. Et d'autre part, c'est un peu un moyen de renvoyer l'ascenseur par rapport au fait d'avoir pu avoir accès à cette méthode. Donc c'est un moyen de propagande, en fait, pour le faire connaître aux gens aussi, et qu'ils sachent ce que c'est, quoi. Et surtout que ce soit certifié aussi, ce qui permet de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait, quoi. Que ce soit pas n'importe quoi. Donc ça, c'est pour la structuration des organismes de la biodynamie, qui sont ensuite fédérés d'un point de vue international, puisque ça n'existe pas du tout qu'en France. C'est très fort en Allemagne, en Suisse, en Hollande. Mais vous trouverez de la biodynamie au Japon, en Corée du Sud, en Inde, en Chine, ça commence. Mais c'est vraiment au Brésil, en Amérique du Sud, aux États-Unis, c'est quelque chose qui vraiment a de l'importance au niveau international. Ouais. Je ne sais plus si j'ai oublié une partie de votre question ou pas. Et des résultats de recherche, c'est le problème des moyens et c'est le problème de la façon de chercher. Puisque soit la recherche se fait dans le cadre de nos propres organisations, et il y a des choses qui se sont faites. Là, je vous ai parlé de l'essai d'Oc en Suisse. Il y a des recherches, il y a des essais qui ont été faits. Des fois, on a souvent, en tant qu'agriculteur, ouais, on expérimente ceci ou on expérimente cela. Et pour avoir des vrais essais, il faut avoir des gens qui soient des professionnels de ça. Avoir des gens qui soient scientifiques, suffisamment scientifiques pour faire un essai de façon cadrée, pour qu'il soit publiable, entre guillemets, pour que ce soit un essai fait de façon sérieuse, où il n'y ait pas trop de paramètres qui changent, enfin qu'on puisse vraiment délimiter les choses. Et on est en train d'œuvrer dans ce sens-là, vraiment, pour avoir des choses pour montrer, ouais, ça marche dans ce sens-là, etc. Et pas seulement empiriquement, quoi. Voilà. Et donc là, par exemple, mes collègues qui passent du conventionnel en bio de bio en biodynamie, on essaie de leur dire, gardez un morceau de parcelle où vous ne mettez pas les préparations et essayez de voir, après 2, 3, 4, 5 ans, vous faites un trou à la bêche, où est-ce qu'il y a le plus de vie, quoi. Ça, c'est des choses vraiment qui se voient, quoi. Souvent, on fait des sorties avec Pierre Masson qui nous oriente vraiment dans ce sens-là, à constater vraiment comment un sol réagit par rapport à la biodynamie, quoi. Par rapport à une parcelle à côté où on n'a pas mis les préparations. C'est des choses qui sont importantes de constater. Après, vraiment, des essais plus sérieux, plus chiffrés, ça demande des moyens. Et on va peut-être arriver à intéresser l'INRA après les COGM. On s'est beaucoup fâché avec eux. Mais ils sont assez prêts à... Enfin, c'est ce qu'ils disent, à bosser avec nous pour essayer de monter des essais. Ouais. Donc on va voir, on va essayer, sachant que d'une part, Eux, ce qui les intéresse, c'est de publier des essais. Pour eux, les sous, ils viennent soit de la publication, soit de l'application concrète. Et l'application concrète, en biodynamie, ça ne leur rapportera pas des sous. Hein, c'est pour ça que des applications sur des gènes, ça leur apporte beaucoup plus de sous. Et après, il faut voir d'où viennent les sous qui financent la recherche pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent dans la recherche, quoi. C'est un peu orienté des fois. Voilà. Je ne veux pas casser du sucre sur le dos plus que nécessaire non plus. Mais ce n'est pas facile d'avoir à la fois le bon esprit pour faire la recherche et avoir les bons moyens en face, quoi. Mais on essaye. Ouais.
Pour dynamiser un produit, il faut toujours une heure. Je vous pose la question.
Pour que ce soit vraiment une dynamisation, oui.
Oui, parce que bon, moi, je me soigne par homéopathie et j'ai beaucoup de produits Véleda. Et on m'avait dit de les dynamiser avant de les prendre, c'est-à-dire de tourner, comme vous dites, le flacon dans un sens puis dans l'autre pendant un petit moment.
Pendant trois minutes.
Je ne le fais pas pendant une heure. Hein.
Non, vous faites-le pendant trois minutes.
Trois minutes.
Si c'est juste pour diluer. Par exemple, on parlait des insectes dont je faisais une D8, donc que je dilue 10 fois au dixième. Et là, je secoue pendant trois minutes. Parce que là, je ne dynamise pas dans un tonneau. Je prends d'abord quelques centilitres, et puis après une bouteille plus grande et un bidon de 20 litres. Mais là, on secoue pendant 3 minutes, dans ce cas-là.
C'est-à-dire qu'en fait, je prends mon flacon, je tourne dans un sens, puis dans l'autre. Puis
non, vous le prenez comme ça, par le cul et la tête.
Oui.
Et vous le secouez comme ça pendant 3 minutes.
Ah, comme ça, d'accord. Et après, je compte mes gouttes dans l'eau.
Vous voulez faire une dilution ?
Oui, je fais une dilution. Enfin, on prend 15 gouttes, ou comme ça, il faut prendre dans de l'eau.
Si vous voulez faire une dilution décimale, une D quelque chose.
Non, je prends déjà une dilution.
C'est quoi déjà ?
Une dilution en D8 ou des, ça dépend.
D'accord, vous partez préparée. D'une dilution déjà ?
Oui, oui, voilà, je pars d'une dilution déjà.
Ça va.
De chez Véleda, oui.
D'accord.
Donc je mets 15 gouttes dans un peu d'eau pour le prendre.
Et vous la buvez ?
Et je la bois, voilà.
Et c'est tout, ouais.
Mais le flacon, je l'agite un peu avant.
Je sais pas.
Non,
c'est déjà une dilution pour moi. Ouais,
ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Moi, je croyais que on m'avait dit pour dynamiser le produit de l'agiter un peu avant de faire. Ouais.
Je saurais pas vous répondre exactement. Pour faire les dilutions, je sais, mais après, une fois qu'elles sont faites, pour moi, c'est prêt, quoi.
D'accord. Merci.
Ouais, je vous en prie. Voilà, voilà.
J'ai une question un petit peu difficile à vous poser, moi. Est-ce qu'il faut avoir la foi pour que ça marche ?
C'est une bonne question. vous avez les réponses au-dessus.
Moi, j'ai goûté du vin en biodynamique. Ben, je vous assure que le goût, il est vraiment différent. Il est extra.
Non, mais c'est une question. C'est une autre question que pose monsieur, en fait. Est-ce qu'il faut avoir la foi pour que ça marche ? C'est un sujet qui est vraiment très d'actualité parce que chaque année, on a un thème de réflexion qui est diffusé comme ça à travers les structures de la biodynamie, mais de tout ce qui touche de la biodynamie, par un institut qui est en Suisse, qui s'appelle le Gotteanum, qui est près de Bâle, à Dornac. Et oh là là, il y a des gens qui pensent. Et le sujet de cette année, c'est quel est le rôle de l'impulsion christique dans la biodynamie ? Alors quand on a vu ce thème-là, il y a les poils qui se sont hérissés pour beaucoup. Parce que c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Quand on parle de Steiner, de la biodynamie, on peut prendre le côté préparation, éléments, calcium, truc-muche, ça marche, les essais montrent, les produits sont bons. C'est une façon de montrer les choses très terre-à-terre. On peut aussi parler de Steiner plus directement, de toute la psychologie, philosophie, de l'anthroposophie, de tout ce qu'il a mis en place, de ses inspirations qu'il a trouvées, entre guillemets, avec des cheminements spirituels, vraiment. Et Steiner parle du Christ, parle de choses comme ça. Et pendant les conférences qui ont eu lieu en mois de janvier, février, j'y étais pas, mais j'ai lu les comptes rendus, il y avait des gens de différentes religions, en fait. Il y avait des gens venus d'Inde, par exemple, qui ont donné leur avis sur la chose par rapport à l'hindouisme ou au bouddhisme. Il y a des gens qui sont venus d'Égypte, puisqu'il y a de grosses cultures biodynamiques, alors que c'est un pays arabe, et qui sont très 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 musulmans là-bas. Et c'était très intéressant de voir, en fait, la correspondance entre la foi qu'on peut avoir, la religion à proprement parler dans laquelle on a été élevé ou à laquelle on adhère, et ce qui est plus, au sens plus large du terme, spirituel, dans la pensée de Steiner et dans l'application pratique de ce que donne la biodynamie pour l'agriculture. C'est un très très bon sujet. Je pense que c'est bien de croire en ce qu'on fait. Et je pense que l'esprit génère la matière et que c'est au moins aussi important l'esprit que la matière. Voilà, ça c'est les pistes que je peux donner de réponse. Je n'ai pas de réponse absolue à vous donner non plus. Mais je pense que en ne croyant que à la matière et en faisant de la biodynamie parce qu'on a vu que c'est un truc qui marche, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas besoin forcément d'être chrétien ou catholique ou steinérien pour faire de la biodynamie. On peut très bien avoir une conscience spirituelle sans ça. Ouais. J'ai répondu à votre question ? Ouais.
La foi en la biodynamie, enfin la foi au sens large du terme.
Ouais, je pense qu'il faut croire dans ce qu'on fait, hein. Même quand on fait de la boxe. Hein. Ouais, je pense qu'il faut avoir la foi, ouais. Dans ce sens-là. ouais, je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait, globalement, ouais. Mais c'est valable pour tout, quoi. Ouais.
Pardon, excusez-moi, j'étais pas arrivée en début de conférence, donc certainement vous présentez la philosophie ou justement la globalité du respect du vivant.
Oui.
Parce qu'au-delà de la foi, qu'on associe souvent à des religions, il peut y avoir cette relation au principe actif de toute vie.
Voilà.
Oui.
On peut appeler ça la spiritualité de façon globale. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que...
C'est un fourre-tout quand on dit ça aussi.
Voilà, Rudolf Steiner a toujours associé justement le subtil et la biodynamie. Dynamiser, c'est quand même être sur des champs vibratoires toujours subtils, des énergies.
Voilà, c'est ce que je disais à un moment donné. En fait, on travaille plus avec des forces qu'avec des quantités de matière. C'est étrange de se dire qu'on travaille avec des forces alors que... L'effet d'une préparation, il n'y a pas de compteur Geiger pour le compter, quoi.
Voilà, et c'est là où apporter des preuves seulement quantitatives, c'est faire abstraction de l'importance quand même et de la force de l'être humain qui est le ressenti. Et la qualité, elle passe par le ressenti.
La substance qui se mesure, qui se pèse, qui se regarde, qui se tâte, qui se goûte, elle est porteuse de force, on peut dire qu'elle est porteuse de spiritualité quelque part. Après, le mot qu'on met dessus, c'est difficile de le définir très précisément.
Puis il n'y a peut-être pas, on le ressent.
Après, on peut le ressentir, ouais. Mais à un moment donné, il faut arriver à en causer, quoi. pour communiquer, ouais.
Merci.
Voilà.
Ouais, donc tout à l'heure, vous nous avez dit que ça n'avait pas forcément de lien avec l'astrologie, mais bon, je me demande si quand même il n'y a pas quelque chose avec la géobiologie ou des choses comme ça. Enfin, c'est pas des.
On va pas utiliser le terme d'astrologie au terme Madame Soleil, faire des prévisions plus que ça. Maintenant, des prévisions, si, il y en a aussi, hein, parce qu'on sait à l'avance que telle et telle planète va faire tel et tel mouvement devant telle et telle constellation, et que ça va peut-être apporter. Il y en a qui planchent sur la météo par rapport à la prévision météo par rapport à ça. Après, ça ne se vérifie pas forcément. ouais. Mais il y a des tendances, peut-être. Ouais. Mais on utilise effectivement cette histoire de cycle et d'influence. Ouais.
Moi, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec ces cycles-là lorsqu'on est dans l'hémisphère sud, par exemple, parce que bon, là, on parle de constellations, on parle de passage de cycle là. Maintenant, bon, il y a les constellations et la Lune tourne autour, enfin, passe devant les constellations de la même façon que l'on soit au pôle, enfin, que l'on soit sur l'hémisphère nord ou sur l'hémisphère sud.
Ouais.
Alors là, à partir de ce moment-là, on peut avoir quelques petits problèmes de cohérence.
On peut avoir des problèmes de cohérence, surtout par rapport aux saisonnalités. Par rapport aux planètes, globalement, hein, Lune, Soleil et machin, qui passent devant telle et telle constellation, on n'a pas tellement ce problème de cohérence, d'après les indications toujours de Rudi Steiner. l'influence de ce qui est cosmique va d'abord rayonner dans la terre et grâce aux préparations plus être accessible aux plantes. Et c'est quelque chose qui traverse en fait la terre. Donc le problème hémisphère nord, hémisphère sud, on peut effectivement se poser la question. Je me la suis posée il n'y a pas tellement longtemps parce que je ne suis pas tellement confronté à ça. Mais il y a beaucoup de biodynamie en Australie par exemple, avec Alex Podolinski qui a beaucoup répandu ça là-bas. Et ouais, du coup on se pose la question comment ça marche quoi, par rapport au calendrier, par rapport aux différents rythmes. Ouais. Mais l'influence des différents astres traverse apparemment le globe, passe par la masse terrestre avant d'être restituée aux plantes. Ouais. C'est une réponse un peu que moi j'ai pu avoir, ouais.
Rudolf Steiner n'a jamais pratiqué l'agriculture, n'a jamais pratiqué le jardinage. D'où lui venaient en fait ces différentes notions qu'il a essayé de traduire aux agriculteurs.
Il a touché à beaucoup de choses. Il n'a pas été directement agriculteur. Il a essayé un peu à Dornach, là où était le centre de le Gotteanum qu'il a fondé. Il a essayé un peu dans la pratique quand même, avant de donner les indications aux agriculteurs, mais pas en tant que professionnel, quoi. C'était pas un agriculteur. D'où est-ce que ça lui vient ? Ça lui vient de sa propre recherche spirituelle. C'est comme ça qu'il l'appelle, en fait. À avoir une vision de ce qu'est une plante, de ce qu'est un minéral déjà au départ, de ce qu'est une plante, de ce qu'est un animal, de ce qu'est un être vivant, de ce que sont les différentes planètes, d'avoir vraiment une réflexion très profonde et une inspiration, d'arriver à élever entre guillemets sa pensée pour avoir ces inspirations là, ouais. Mystérieux, hein. C'est ce qui est difficile à préparer,
non,
à présenter.
Non, pas si mystérieux que ça. J'entendais hier un autre scientifique dans une autre matière qui disait qu'un scientifique, c'était pas simplement quelqu'un qui réfléchissait sur quelque chose, mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, en fait.
Oui.
Qui était très, très sensible, en fait.
Il y a un livre, une conférence de Steiner qui s'appelle « Les quatre imaginations cosmiques », justement. Oui, tout à fait. Il faut avoir une certaine vision et... Je pense que l'imagination est une première qualité pour y arriver, ouais, peut-être. Ouais. L'intuition consciente, en fait. Pas juste se douter de quelque chose ou d'en avoir l'instinct, mais d'arriver à faire les choses de façon consciente, d'éclairer avec la conscience ce que peut être l'intuition ou l'instinct, ouais. Plutôt comme ça de le voir. Ouais. Voilà, voilà. Et ben, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon appétit. Peut-être que dehors il y a du soleil, hein, je ne sais pas. Merci beaucoup.
C'est moi.